Et vous avez beaucoup composé pour la voix.
C'est le lieu où je me situe. Quand je ne sais pas, quand je regarde maintenant ma trajectoire, il y a quand même derrière moi 5 opéras, que ce n'est pas par hasard. Grand oratorio, il y a des œuvres de musique de chambre, mais il y a toujours la voix. Donc c'est peut-être dans ma culture d'une manière inconsciente aussi. C'est-à-dire que, oui, la musique, on l'a dans le monde arabe ou dans le monde populaire au Maroc, elle est vocale et très peu instrumentale. Et quand les instruments sont là, ils ne sont qu'un soutien. Cette voix, sauf pour la musique du Haut Atlas, où la partie percussive est très importante, et donc toute une réflexion de cette musique populaire sur la durée. Et que ça aussi, c'est tout d'un coup, je me trouvais tout à fait en porte-à-faux avec les années, vous voyez, les années 65 jusqu'aux années 80, où on faisait généraliser la série à tous les paramètres de la musique, la durée, les dynamiques et toutes ces choses-là. Et ce sont des vues d'esprit. C'est-à-dire, on peut pas considérer la durée comme un phénomène chromatique. C'est trop simple. La durée, c'est quelque chose qui a un rapport avec la pulsion du vécu profond de l'être. Et c'est tellement... Elle n'est pas universelle non plus. Il n'y a pas de durée universelle. Sauf si on considère que l'universalité de la seconde est quelque chose de fondamental, bien qu'il est nécessaire. Et donc la durée dans la musique, pour moi, ça ne peut pas être réduit à un modèle chromatique. Et ça, c'est une prise de conscience à travers mes travaux et ma découverte des musiques du Haut Atlas au Maroc, dont la durée, dont les œuvres sont articulées par la durée, uniquement par la durée, pas par des intervalles. Les intervalles, on joue très peu de rôle dans cette articulation formelle, mais c'est la progression des durées, la précipitation dans le temps qui fait qu'une œuvre tient. Et ça a été fondamental pour moi. C'est ce qui agit d'une manière profonde, comment dire, déterminante dans l'opéra Lo. Parce que c'est ce jet qui fait que, bon, il y a une courbe qui se fait et qui va de plus en plus rapidement vers sa conclusion. Et ça aussi, c'est un peu la vie. Notre vision du temps change. Pour moi, le temps va à une telle vitesse maintenant. C'est comme si je suis sur un cheval dont je n'ai plus la maîtrise. Il est tellement fougueux et indomptable. Donc l'universalité, le chromatisme du temps est tellement, tellement arbitraire, à mon sens, et qui n'a pas lieu d'être.
L'expérience soufie a été importante pour cette réflexion sur le temps.
Ce qui m'a amené à cette littérature, parce que je ne suis pas... Sophie, je suis agnostique, en étant avant musulman, puis athée, puis agnostique. Cette expérience débouche sur l'universel et sur la tolérance. Quand on lit Ibn Arabi, quand on lit Jalaluddin Rumi, on voit que ces gens-là ont dépassé la vérité du départ qui était l'islam, le dogme, pour s'ouvrir à une chose beaucoup plus universelle qui englobait l'humain, l'humanité et l'acceptation de l'autre dans sa différence absolue. Et puis il y a une deuxième chose qui va m'interpeller dans cette littérature, c'est la langue. La langue de Hallaj est d'une puissance et d'une force qui vous pénètre au plus profond de vous-même, tout en étant d'une simplicité, comment dire, matinale. Les mots sont choisis avec une telle maîtrise que la phrase, elle est sculptée, elle vous pénètre, et où vous n'avez pas besoin de vous gratter la cervelle, comprendre, c'est immédiat et tout le monde peut la saisir. Je suis celui que j'aime et celui que j'aime est moi. On n'a pas de mal à comprendre ça, mais on n'a pas tout compris une fois qu'on l'a entendu. Il y a toujours dans cette langue de Hallaj une lumière derrière une autre lumière. Et c'est le Coran dit ça d'une manière merveilleuse. Nourun ala nour, lumière sur lumière. Et donc c'est cette langue-là, lumineuse, extrêmement claire, et en même temps extrêmement secrète, qui m'a bouleversé. Et qui va bouleverser mon ami aussi, avec qui j'ai travaillé beaucoup, Bernard Noël. Et que quand Bernard Noël, après un an d'attente de ma part, m'envoie la première scène de l'exercice de l'amour, tout ce que j'avais préparé pour l'accueillir s'est effondré. Parce que les premiers vers, voilà que j'ai passé la porte, laissant là-bas ma vie comme on s'y déshabille. Au premier jour, tout est nouveau. Au deuxième jour, tout est déjà vieux. C'est évident, ça semble tout à fait clair, mais ce n'est pas suffisant de cette première compréhension. Il y a encore d'autres choses derrière. Voici que j'ai passé la porte, laissant là-bas ma vie, comment se déshabille. Et il y a derrière ce côté gestuel de la phrase, il y a autre chose derrière, il y a une violence qui est cachée. Et comment dire ça dans la musique? Et c'est seule la langue qui m'a sauvé. C'est-à-dire, dire cette phrase des milliers de fois, à haute voix, jusqu'à ce que son chant éclose dans ma tête. Et pour moi, cette expérience de la langue est extrêmement fondatrice dans mon travail. Et c'est d'où d'ailleurs ce lien entre chant et composition dans ma vie. La langue est la source fondatrice de tous mes gestes musicaux. Je me demande des fois, si on dit qu'il y a la musique française, il y a la musique italienne, il y a la musique allemande, et c'est vrai, ce sont des musiques extrêmement différentes, bien qu'on employant le même langage et le même matériau. Mais qui fait cette différence? De quoi? Où résident ces différences, si ce n'est pas dans le chant de la langue qui détermine que chez Debussy, le phrasé est autre que chez Bellini et encore autre que chez Max Reger ou Strauss? La langue est source de toute musicalité. Elle est la musique, la langue.
Et votre rencontre avec Bernard Noël, elle s'est faite comment?
Par hasard aussi. Quand j'étais invité à la Chartreuse de Villeneuve-les-Avignon pour ce projet d'Opéra Lumière, on m'a dit, oui, ça serait bien que ce soit Bernard Noël qui soit le librettiste, parce qu'en plus, il était le premier résident de la Chartreuse. Il est resté 2 ans dans la Chartreuse. Tout ça. Mais on n'ose pas lui demander, est-ce que vous pouviez le faire? Et moi, je n'ai jamais rencontré Bernard Noël. Si, j'ai vu Bernard Noël, parce que j'ai assisté à des lectures de Bernard Noël à Paris, et ça m'a impressionné. Cet homme m'a impressionné. On nous met en contact et on a un rendez-vous, tous les deux, au Café Cluny, au coin du boulevard Saint-Michel et boulevard Saint-Germain. Lui avait un train à prendre à 2h30 et moi j'avais un rendez-vous à Radio France à 3h. Et donc on se donne rendez-vous à 13h. À 17h, on était tous les deux là encore. On avait oublié nos rendez-vous, c'était tellement merveilleux, ce moment merveilleux qu'on a passé ensemble. Et c'est comme ça que ça a commencé notre collaboration et notre première. Et qui va durer, et j'espère qu'il va durer encore, parce que je tiens beaucoup à que Bernard m'écrive un livret du 3e opéra sur le cycle de la mystique, c'est-à-dire l'exercice de l'amour et Louise Abélard, et le 3e sera sur Abou Hussein Hallaj, la vie de Abou Hussein Hallaj. Mais je n'ai personne pour produire cet opéra, donc ça ne se fait pas encore.
Donc c'est un petit peu un appel aussi.
Ah ben c'est l'œuvre de ma vie. Ça sera l'œuvre de ma vie.